vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bonjour, mais vous aimez forcément Roberto Rossellini, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vous parle de Roberto Rossellini et avec une focalisation sur son film Europe 51. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que dimanche soir, sur France 3, je reconnais que c'est un peu tard, c'est en général vers minuit ou 11h30 du soir, 23h30, mais est passé Europe 51, qui est évidemment un film extrêmement important. Alors, juste donc pour vous parler un petit peu de Roberto Rossellini, il est né à Rome le 8 mai 1906. Et alors, son père, figurez-vous, avait acheté une salle de cinéma. Alors évidemment, ça tombe bien quand on aime le cinéma. En tout cas, même s'il ne l'aimait pas, comme il regardait deux films à peu près par semaine, il a fini par être évidemment assez intéressé par le cinéma. Et notamment, ça devait être en 1929, donc vous voyez, il était assez jeune encore, il a vu Alléluia, c'est un film de King Vidor. Et quand il a vu ces noirs qui tapaient sur les bambous, machin, qui chantaient, enfin bon, il a été complètement ébloui et c'est vrai que ça l'a... Oui, il a décidé finalement de... Il s'est dit, je vais être réalisateur. Il a bien fait tout ça pour notre bonheur. Alors, il commence donc son premier court-métrage. C'est en 1937. Et c'était tout simplement Prélude de l'après-midi d'un faune. Évidemment, ça vous dit quelque chose. En 1941, c'est son premier long-métrage. C'est Le Navire Blanc. Et puis ensuite, il va faire... un film extrêmement ambitieux qui s'appelait L'homme à la croix. Et c'était une histoire d'un aumônier allemand qui allait sur le front de Russie. Un film qui avait déjà beaucoup interpellé. En tout cas, le cinéma de Rossellini ne laissait pas les gens indifférents, évidemment. Et puis, en 1945, sort un véritable chef-d'œuvre. Et à partir de ce moment-là, Rossellini a été considéré comme un des plus grands réalisateurs du monde. Et donc, c'était Rome, ville ouverte, avec Anna Magnani. Et donc, c'est un film... avec Anna Magnani, il a... Ça a été d'ailleurs une rencontre coup de foudre et une liaison, on peut dire, assez tumultueuse. Et quand on lui posait la question, parce qu'après il va avoir une deuxième femme, c'est Ingrid Bergman dont je vais vous parler, eh bien c'est vrai que quand on lui posait la question, il dit « Quelles sont les deux actrices que vous préférez ?» Et il répondait « La Magnani et Bergman ». Et quand il disait « Quelles sont les deux femmes que vous avez aimées le plus ?» Il disait « Anna et Ingrid ». Voilà. Donc c'est tout son univers et après tout, c'est pas si mal, hein, évidemment. Donc en 1945, Rome, ville ouverte, film extrêmement important. Ensuite, il fera en 1946 Païsa. Et avec Anna Magnani, ils vont multiplier des succès. Et notamment aussi avec un film remarquable, inspiré par, par Cocteau, La voix humaine. Et puis, c'est un autre film qui s'appelle Miracle. Alors là, Miracle, là, il va rentrer dans une période un peu noire parce qu'on lui reproche de critiquer la religion. Alors c'est vrai que cette histoire Miracle, c'est une histoire rocambolesque. Pardon, c'était une jeune paysanne qui tout d'un coup se faisait engrosser par un berger un peu taré, mais tout ça. Et tout d'un coup, elle faisait croire que c'était Saint-Joseph qui l'avait engrossée. Vous voyez, elle se prenait un peu pour la Vierge Marie. Bon, voilà. Alors évidemment, surtout en Italie, vous voyez, il y a quand même des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Bon, voilà. Donc, ça a été une grande période noire. Et Roberto Rossellini est entré dans une crise assez profonde de pessimisme. Il avait la hantise de la mort. Enfin bon, il était un peu au creux de la vague. Et seulement, voilà, Rome, ville ouverte, qui était un film de 45 génial, était vu à Hollywood. Et là, il y avait une comédienne, Ingrid Bergman, qui, on peut dire qu'en 1948, elle était la grande vedette d'un cinéma mondial, évidemment. Et elle décide, parce qu'elle a trouvé ce film remarquable, ça l'a beaucoup émue, et elle décide de rencontrer le réalisateur. Elle quitte tout. Elle avait un mari et un enfant. Non, elle quitte tout et elle part voir le réalisateur de Rome, ville ouverte. Et lui, comme réponse, lui donne le scénario de Stromboli. Ils se sont rencontrés à Paris et ça a été une idylle assez fracassante. D'abord parce que c'était contraire à la morale, évidemment. Roberto... En général, je ne vous parle pas trop des histoires people, mais je trouve là, c'est une histoire tellement... C'est du cinéma, déjà, vous voyez. Et donc, il se trouve que voilà, c'était sans compter avec l'ex... pas s'ils étaient mariés officiellement ou pas, en tout cas compagne de Roberto Rossellini, qui était Anna Magnani. Et c'était, tout le monde connaît Anna Magnani, c'est une personnalité forte, truculente, violente, etc. Ça, ça ne lui a pas plu. Il paraît qu'elle allait hurler à la mort sous les fenêtres du couple Rossellini-Bergman. Vous voyez, donc c'est des choses qui ne sont pas passées, évidemment, inaperçu. Et en plus de ça, Stromboli a été un échec. Un échec. Alors, en plus de ça, donc finalement, Roberto Rossellini se marie avec Bergman. En 1950, ils ont un enfant. Et tout ça a fait couler beaucoup d'encre parce que c'était un couple un peu étrange, quoi, voilà. Et c'est donc juste après, d'ailleurs, la naissance de Robertino, donc c'est en 1952. En réalité, c'est un film qui a commencé à être tourné en novembre 51 et jusqu'à janvier 52. C'est le fameux film dont je veux vous parler, Europe 51. Alors, c'est drôle parce que ce film a d'abord été reçu avec beaucoup d'ironie, d'abord. Et puis, vous savez, le monde est bien versatile et même dans le monde du cinéma. Et donc, ça a été finalement reçu comme un chef-d'œuvre. Et je crois qu'en effet, il l'est. Alors, je vous propose, puisque je vous ai évoquer un peu ces amours un peu tumultueuses, je voudrais que vous entendiez la voix de Ingrid Bergman qui, et là c'est intéressant parce qu'en plus de ça, l'interview vous allez entendre, on entend d'abord la voix de François Chalet qui est vraiment le journaliste qui, dans ces années-là, était le numéro un à Cannes. Et donc, c'est un interview qui se passe à Cannes. Et ensuite, il donne la parole à France Roche, qui, elle aussi, a été une journaliste spécialisée dans le cinéma. Et là, vous entendrez Ingrid Bergman, qui parle en français. Donc, on l'écoute tout de suite.
Il va que les personnages de Françoise Sagan auront les traits que la richesse d'une production américaine leur permettront d'avoir. C'est-à-dire les visages d'Anthony Perkins, le jeune premier à la mode aux États-Unis, d'Yves Montand, dont, si les Français ne risquent pas de l'oublier, on souhaite qu'ils n'en oublient pas les Français pour cela. Quant à Ingrid Bergman, elle a réservé à France Roche une de ses rarissimes apparitions à la télévision.
Vous savez que vous ne ressemblez pas du tout à une actrice. D'abord, parce que vous parlez de votre âge d'une façon très décontractée. Ensuite, parce que vous avez des enfants dont vous vous occupez, ce qui est aussi très rare.
Non, ça, je ne crois pas que c'est rare. Tous mes amis qui sont actrices s'occupent aussi beaucoup de ses enfants.
Et puis, je crois que vous menez une vie discrète, sans publicité. C'est-à-dire qu'il y a des discrétions publicitaires. Et vous, vous avez la discrétion discrète.
Ah oui, oui, mais c'est peut-être maintenant, ces dernières années, que je réussis à ça. Parce qu'avant, ma vie était assez publique. Je ne crois pas que j'ai bien fait. Mais on ne peut pas toujours et se tenir tout à fait privé, parce qu'on a les journalistes, les gens qui rentrent vraiment dans la maison, dans la vie privée, et on ne sait pas comment il faut se défendre de ça.
Oui, mais je crois que vous vous défendez avec beaucoup de politesse.
Merci.
Et vous avez aussi quelque chose de très rare chez une actrice, c'est que vous êtes une grande vedette internationale et que vous n'avez pas fait de film depuis 2 ans. Comment ça se fait?
Oui, c'est parce que je n'ai pas voulu travailler pour 1 an. Et je voulais rester à la maison avec mes enfants, mon mari. Et la seconde année, c'était parce que je n'ai rien trouvé. Ce n'est pas facile de trouver les choses qui sont bonnes. On cherche, j'ai beaucoup lu et tout ça. Et je pense retourner au théâtre, j'espère aussi faire ça un jour. Mais je n'ai rien trouvé jusqu'à Aimez-vous Brahms.
Mais pourtant, vous avez certainement le choix. J'ai l'impression qu'on doit vous proposer des monceaux de scripts ou de livres.
Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est pas tellement. Si on prend tout comme ça, oui, c'est beaucoup, mais si on regarde ce qui est bon et mauvais, les choses qui sont bonnes sont très peu. Alors, je préfère de rien faire que faire les choses que je n'aime pas.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir, avoir envie de faire Aimez-vous Brahms?
Ah, parce que je trouve que c'est une très bonne histoire. Et c'est 3 personnes seulement, et ça j'aime beaucoup parce que je n'aime pas les grandes scènes avec les soldats, les chevaux, tout ça. C'est très intime, mais c'est les choses qui passent en intérieur de ces 3 personnes. Et après, c'était tourné ici, à Paris, alors j'étais très contente de ne pas aller en Chine ou quelque part comme ça dans le monde, parce que maintenant le cinéma est fait partout, et je préfère rester ici.
Mais qu'est-ce qui fait que vous trouvez qu'un sujet est bon? Parce qu'il y a d'une part un sujet qui est bon et puis un sujet qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez bon pour vous?
Oui, ça je ne sais pas. C'est quand je lis quelque chose que je suis frappée tout de suite par peut-être une certaine vérité dedans, n'est-ce pas? Et quelque chose de sincère. Et c'est pas nécessaire que c'est très tragique, un drame, ça peut être aussi une comédie, mais il faut avoir quelque chose de vrai. Et c'est ça. Peut-être très souvent, je choisis les choses qui ne sont pas bien pour moi. Mais c'est parce que je pensais que je pouvais le faire et après je n'ai pas pu le faire bien, mais quand même c'était toujours quelque chose qui m'intéressait.
Mais c'était une vérité qui était près de la vôtre.
Oui, c'est ça. Mais ça peut très bien être une femme folle, une femme bonne, une femme moins bonne, tout ça. Ça dépend si seulement je trouve que c'est écrit avec une certaine
sincérité.
Sincérité.
Est-ce que vous accepteriez de tourner dans un film interdit aux moins de 18 ans?
Oui, ça, je ne sais pas. Ça dépend de nouveau au sujet. Je ne sais pas vraiment ce que... Oui, pourquoi pas? C'est pas que vous pensez de mes enfants.
Oh non. Je pense à vous seulement. Ça vous amuserait de jouer un rôle de personnage léger?
Oui, mais vous comprenez, on a aussi ses limites. Peut-être que je ne suis pas une femme qui a le visage d'une femme très léger, alors on me donne pas ce rôle-là. Je ne sais pas faire les souliers non plus, alors on me donne pas les souliers à faire.
Aimeriez-vous jouer un rôle qui ne conviendrait pas à votre personnalité, à l'idée que vous vous faites de votre visage?
J'aime beaucoup faire les femmes qui sont un peu excentriques, un peu folles, et peut-être c'est pas du tout dans mon caractère de femme, comme je suis dans la vie, mais ça m'intéresse beaucoup.
Dans la vie, vous avez plutôt l'air d'une personne qui est très sage.
Oui, c'est ça. C'est mon sang suédois.
Je ne crois pas que c'est seulement votre sang suédois. J'ai l'impression que c'est votre vie parce que j'ai l'impression que vous êtes une femme tout à fait différente depuis 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais l'impression que vous trouviez le monde autour de vous un peu ennemi. Tandis que maintenant, on dirait que vous êtes réconciliée avec lui.
Oui, mais peut-être le monde autour de moi était ennemi à ce moment.
Vous croyez?
Ah, un peu, oui. Mais c'était peut-être ma faute parce que ma vie n'était pas très heureuse. Vous savez bien que j'ai des difficultés à ce moment à se passer. Et à ce moment, on se trouve très seul.
Mais est-ce que vous croyez que les gens sont ennemis? John Berry a une très jolie formule. Il parle de la tendre indifférence du monde. Vous ne croyez pas que les gens sont plutôt indifférents?
Non. À la vie des actrices, non. Ils sont trop curieux, ils veulent se mêler dedans et donner les conseils, et parler. Et non, je ne crois pas du tout qu'ils soient indifférents.
Alors pourquoi maintenant les regardez-vous avec plus de calme, plus de...
Oui, parce que je suis heureuse et ma vie est très calme à ce moment. Et merci à Dieu, je ne suis pas mêlée dans un scandale à ce moment. C'est à ce moment-là que ça intéresse le public, n'est-ce pas? Quand on fait une vie tranquille, on travaille et tout ça, et tout est calme, alors les yeux du public vont à une autre pauvre actrice qui a des problèmes autour d'elle.
Et puis j'ai l'impression que quand toutes les petites jeunes filles vous regardent, elles envient beaucoup une très jeune dame de 39 ans que vous êtes.
Ah oui, merci, vous avez même coupé quelques angles.
Bien, alors vous venez d'entendre donc un interview de Ingrid Bergman, en effet très calme et qui, les questions sont posées par France Roche. Et c'était à l'occasion à Cannes quand est sorti le film Aimez-vous Brahms, je crois que c'est Anatole Litvak, mais j'ai oublié de vérifier, donc vous ne m'en veuillez pas si je me plante. Mais Aimez-vous Brahms, je me souviens très très bien de l'air pour l'avoir vu le film et ça m'avait frappé. En revanche, il y avait, oui, en effet, Anthony Perkins, c'était une histoire d'une femme entre deux hommes, un plus âgé et un plus jeune, deux hommes qu'elle pouvait aimer. D'ailleurs, c'est drôle que tout d'un coup, je sois tombé sur cette interview où on parle d'Aimez-vous Brahms, parce que ça me rappelle un film qui est actuellement sur nos écrans, c'est le film Café Société de Woody Allen. C'est ça aussi, c'est Vonnie qui hésite entre Phil, un homme qui est dans la vie, riche, un peu plus âgé, et puis un jeune homme, Bobby, voilà. Donc, voyez donc comme quoi les histoires sont toujours les mêmes dans tous les films, mais elles sont traitées évidemment d'une façon extrêmement différente. Alors, puisque je vous parlais d'Europe 51, donc réalisé par Roberto Rossellini, c'est un film qui a été produit par Carlo Ponti et Dino De Laurentiis. Et donc, je vous le disais, ça a été Europe 51, ça a été en effet tourné dans les années fin 51, début 52. C'est quand même un prix qui a eu le prix international au Festival de Venise, et ex aequo, mais avec L'homme tranquille de John Ford, c'est pas mal, et avec un autre film japonais de Mizoguchi, Oharu, Femme galante, voilà. Et puis, au fond, le scénario d'Europe 51, ben, c'est une sorte de sainte, oui, dans un siècle, évidemment, une femme qui tout d'un coup, qui au démarrage est plutôt, on va dire, légère, elle préfère sortir dans des cocktails avec son mari, etc., etc., et elle s'occupe pas tellement de son fils, jusqu'au moment où le fils se suicide, un jeune garçon, et à partir de ce moment-là, évidemment, sa vie va complètement basculer, et elle va essayer de se rapprocher des gens, d'être beaucoup plus proche des gens, mais d'une façon même incroyable. Elle, c'est vrai que on peut dire que oui, elle devient presque une sainte, quoi. Voilà, donc c'est un film évidemment très fort et assez bouleversant. Et alors, quand on pose la question à Roberto Rossellini à propos du néoréalisme et toutes sortes de choses, il répond j'ai essayé de porter un regard nouveau sur les choses de la vie. C'est en effet ce que fait Irène dans dans Europe 51. Elle, tout d'un coup, elle va regarder les choses autrement, évidemment, dans son film. Alors, avant d'écouter la bande-annonce, ou en tout cas un extrait du film, alors bon, malheureusement, vous allez entendre un extrait du film, mais vous allez entendre Ingrid Bergman qui parle italien. Malheureusement, c'est pas sa voix. Alors, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en Italie, on voulait lui donner le prix d'interprétation, mais tous les Italiens ont dit « Ah ben non !» parce qu'elle a parlé dans le film américain et elle a été doublée. Donc, c'est pas sa voix que l'on entend dans le film de Roberto Rossellini. Alors, puisque je disais, avant de voir la bande-annonce, je voudrais juste vous lire, dans un interview, ce que disait Roberto Rossellini à propos de... On lui demandait si dans ses films, il y avait quelque chose de l'ordre de l'autobiographie. Alors voilà ce qu'il disait. « Dans mes films, il y a beaucoup d'autobiographie. Dans les documentaires, on peut retrouver mes rêveries juvéniles, la découverte de la vie, d'un bourdon qui rôde, des poissons qui passent sur un miroir d'eau. Puis c'est la guerre et l'occupation. » Et Rome, ville ouverte, est le film de la peur de tout, mais surtout de la mienne. Moi aussi j'ai dû me cacher, moi aussi je me suis enfui, j'ai eu des amis qui ont été pris ou tués. Dans Stromboli, c'est l'arrivée d'une étrangère dans la vie d'un homme simple comme Antonio, un pêcheur. Et même le sentiment de la femme brutalisée par la réalité, pourquoi ne devrait-il pas être autobiographique. Alors, dans un autre interview, on lui parlait de l'homme dans le monde, parce que on lui parle évidemment du néoréalisme, il fait partie du néoréalisme. Alors voilà ce qu'en dit tout simplement Roberto Rossellini. Le néoréalisme consiste à suivre un être avec amour dans toutes ses découvertes, toutes ses impressions. Il est un être tout petit au-dessous de quelque chose qui le domine et qui d'un coup le frappera effroyablement au moment précis où il se trouve librement dans le monde sans s'attendre à quoi que ce soit. Et à propos des idées, il disait l'important ce sont les idées, non les images. Il suffit d'avoir des idées très claires et l'on trouve l'image la plus directe pour exprimer une idée. Et on parlait aussi d'improvisation et là il répondait « Mes films, tout le monde le dit, donc peut-être est-ce vrai, tous mes films sont vrais. » Et cette vérité naît de l'improvisation, des petites choses qu'on a sous la main. Il s'agit de profiter, d'être un bon voleur, de profiter de tout accident. Chaque attitude, chaque faute de diction devient utile. Et enfin, à nouveau à propos du néoréalisme, il avait cette phrase « Pour moi, le néoréalisme est surtout une position morale de laquelle on regarde le monde. Elle devient ensuite une position esthétique. » Donc je vous propose tout de suite, Manu, si tu en es d'accord, puisque c'est lui qui est aux manettes, d'écouter un extrait, tout simplement, de Europe 51.
Dovevo vederlo, sentirlo questo lavoro. Sono terrorizzata, mi creda, ho capito. Proprio una condanna spaventosa.
Ah, Andiamo, Irene, si calmi un momento e non esageri.
Non esagero, Andrea, mi creda, non esagero. Ho visto molto bene che cos'è. Pensare che si vuol fare del lavoro un dio.
Ma non le viene il sospetto di essere un po' la vittima delle prime impressioni? Che cosa ha visto del lavoro lei? Che cos'è la vera vita del lavoro? Lei ha visto la schiavitù del lavoro. Ma quando saremo arrivati ad una umanità di tutti i lavoratori?
No, no, Andrea, è un'umanità mostruosa quella che lei sogna. Li ho visti, sono tanti schiavi alla catena. Come può pensare che sarebbero più felici?
Comunque sarebbero meno infelici e vi sarebbe più giustizia. E non esisterebbe più chi muore dalla fatica e chi sta a guardarlo con le braccia conserte.
Può anche essere vero. Ma se tutti riuscissero a capire che il lavoro non è soltanto un dovere, ma una condanna, guadagnerai il pane col sudore della fronte. Allora probabilmente ci sentiremmo tutti più vicini, tutti uguali, tutti umiliati allo stesso modo e cercheremo insieme la salvezza.
Voilà, alors évidemment, c'est pas la voix d'Ingrid Bergman, mais bon, c'est vrai que, comme je vous l'avais raconté, elle est américaine, enfin, elle était suédoise, vivant aux États-Unis, et là, elle débarque en Italie, donc elle sait pas encore très bien parler l'italien. Alors, concernant donc Europe 51, je voudrais là encore vous citer Roberto Rossellini. Il dit, et c'est pour m'expliquer par l'exemple que je me suis décidé à réaliser Europe 51, où justement Ingrid Bergman, ma femme, illustre le cas d'une femme, riche, qui lorsqu'elle est confrontée brutalement à ses propres responsabilités devant la mort atroce de son propre fils qui se tue car il refuse la vie, va chercher à se rassurer elle-même en demandant à la vie les justifications que son propre enfant n'avait pas voulu ou pu trouver. Mais comme ces justifications, elle les demande avec le langage inhabituel de la sincérité et de l'honnêteté, comme elle les demande parce qu'elle veut vraiment les obtenir et non pas les demander dans l'interprétation commode fournie par les partis ou les églises, mais dans leur réalité vraie et durable, voici qu'elle commet le péché mortel de non-conformisme. On la juge folle sous tous les points. Elle ne reconnaît pas la fiction de l'honnêteté comme les autres la reconnaissent. Donc, elle est folle. Elle n'accepte pas l'hypocrisie de la charité comme les autres l'acceptent. Donc, elle est folle. Et fou qui est hors des partis, fou qui est hors des églises, fou qui est hors des grilles du conformisme. Europe 51 serait-il un film symbolique ? La dernière mode consiste à qualifier mes films de symboliques. Or, je sais très bien que le communiste torturé de Rome, ville ouverte, peut évoquer le visage du Christ en croix, que l'enfant d'Allemagne, année zéro, meurt pour sauver le monde, que l'itinéraire d'Irène dans Europe 51 est un chemin de croix. Mais j'ai toujours fait en sorte que cela vienne après le film, en plus, comme une seconde et plus riche signification. Europe 51 serait-il un film catholique ? Réponse de Roberto Rossellini. On peut dire que les Fiorenti et Europe 51 ont un caractère autobiographique au sens où ils exposent des sentiments que je reconnais en moi comme dans mon prochain. L'aspect jongleur qui est en chacun de nous est son contraire. Les deux tendances coexistent chez l'homme. La recherche du concret, mais aussi l'imagination. Aujourd'hui, on a tendance à supprimer la seconde. De plus en plus, le monde est scindé en deux. D'un côté, il y a ceux qui veulent assassiner l'imagination, et de l'autre, ceux qui veulent la sauver. D'un côté, ceux qui veulent vivre, de l'autre, ceux qui veulent mourir. C'est le problème que j'affronte dans Europe 51. En oubliant la seconde tendance dont je parlais, c'est-à-dire l'imagination, on tue en nous tout sentiment d'humanité, et on engendre l'homme robot qui ne doit penser que d'une seule façon, et tendre vers le concret. C'est cette tentative si inhumaine que dénonce ouvertement, violemment, Europe 51. J'ai voulu dire franchement mon opinion dans mon intérêt et celui de mes enfants. C'est le but que j'ai essayé d'atteindre dans ce dernier film. Cette capacité à voir l'un et l'autre aspect de l'homme, cette bienveillance, me semble typiquement latine et italienne. C'est le fruit d'une certaine civilisation. C'est notre habitude, très ancienne, de considérer l'homme sous tous ses aspects. Et pour moi, Il est très important d'être né dans une telle civilisation. Je pense que nous nous sommes sortis de la guerre et d'autres catastrophes non moins terribles grâce à notre conception de la vie purement catholique. Le christianisme nous considère à la fois comme bons et mauvais. Il reconnaît les erreurs et le péché, mais il admet aussi qu'il existe une possibilité de salut. Et dans le camp adverse, on considère l'homme infaillible, cohérent et parfait. Et pour moi, la seule façon d'approcher la vérité, c'est d'envisager le péché avec bienveillance. Alors, à propos d'Irène, il dit aussi Stromboli vient après Romeville ouverte, mais surtout, il est plus proche d'Allemagne année zéro. Ce sont évidemment les titres de films qu'il a réalisés, dont je vous ai parlé en début de cette émission, qui a été le film de la destruction. Les hommes commençaient à revoir le soleil, la lumière, ils commençaient à regarder la vie avec des yeux neufs, cela donnant comme un élément nouveau. Stromboli représente une certaine étape de cette reprise. Et après avoir regardé la vie, j'ai tenté de faire que la protagoniste d'Europe 51 regarde celui qui donne la vie, Dieu. Irène, la protagoniste d'Europe 51, à la différence de Karine qui résout tout pour elle-même, est à mon avis une martyre en raison de l'incompréhension des êtres humains qui l'entourent. Dans Europe 51, tout le monde est affligé, mais personne n'est capable de comprendre et d'aider cette femme, choquée par un drame qui la dépasse. Irène vit au milieu d'une bande de taupes, elle en a pitié. Ce sentiment de pitié me paraît être le geste le plus humain de tout le film, devenant ainsi une gigantesque pierre de voûte. C'est au fond une étincelle divine qui vient vers les hommes. C'était donc des propos recueillis par... ce sont des propos de Roberto Rossellini. Et je voudrais vous citer... une phrase de Jean-Luc Godard qui parle justement de Europe 51 et de Rossellini. Je cite Jean-Luc Godard, « Rossellini est le seul qui ait une vision juste, totale des choses. Chez lui, un plan est beau parce qu'il est juste. Chez la plupart des autres, un plan devient juste à force d'être beau. » Et enfin, je voudrais terminer avec une citation de François Truffaut. « Roberto m'a appris que le sujet d'un film passe avant l'originalité de son générique, qu'un bon scénario doit tenir en 12 pages, qu'il faut filmer les enfants avec plus de respect que n'importe quoi, que la caméra n'a pas plus d'importance qu'une fourchette et qu'il faut pouvoir se dire avant chaque tournage « je fais ce film » ou « je crève ». Voilà donc, c'était évidemment des paroles musclées révolutionnaires de notre jeune réalisateur François Truffaut et Jean-Luc Godard, qui, vous le savez, faisaient partie de la Nouvelle Vague et qui parlaient de Roberto Rossellini. Donc, on peut dire que Europe 51, c'est un film de Roberto Rossellini d'une grande pureté esthétique par ses décors, ses éclairages. Tout ce qui a été dit là à l'instant peut évidemment et parfait par rapport à Europe numéro 1. C'est donc un film majeur avec aussi quelques effets très rare, mais de ralenti ou d'arrêt sur l'image, donc des effets qui jouent à la fois sur l'espace et le temps, évidemment, et ce sont ce léger ralenti, notamment avec un peu de vent dans les cheveux, voyez, où tout d'un coup, c'est l'esprit qui souffle, et ça va bien à ce qu'on vient d'entendre, dit par Roberto Rossellini. C'est donc tous ces petits effets qui magnifient le réalisme en créant l'émotion. Voilà ce que l'on pouvait dire de Europe 51 de Roberto Rossellini. Voilà, vous venez d'entendre donc le énième petit Ciné Plus, Manu aux commandes, un grand merci. Et nous nous réentendons, nous nous revoyons par le son. Eh bien, écoutez, mercredi prochain.